Parlez-moi d'IA.
Mesdames et messieurs, bonjour. Je suis un super ordinateur Carl, cerveau analytique de recherche et de liaison.
C'est une machine qui ressent les choses.
On nous raconte n'importe quoi sur l'IA.
Alors, qu'est-ce que tu en dis, Kit ?
Moi, je n'en dis rien du tout.
Et la créativité, elle reste du côté de l'humain.
Parlez-moi d'IA, présenté par Jean-Philippe Clément.
Bonjour à toutes et à tous. En IA, vous savez, de plus en plus, on parle de cette dichotomie entre les modèles LLM propriétaires, type ChatGPT d'OpenAI ou Claude d'Anthropic, et les modèles LLM open source. Eh bien, aujourd'hui, on va essayer de comprendre ce que l'open source implique dans le domaine de l'IA en décortiquant le processus de création d'un modèle LLM open source. Voilà, alors accordez-vous ces 30 minutes. On va interroger une nouvelle fois le phénomène intelligence artificielle sur ses aspects sociaux, culturels, éthiques. Alors là, certainement techniques, c'est sûr. On ne peut pas faire autrement. Et puis, du coup, aussi quand même politique, parce qu'il y a des questions politiques derrière ces questions techniques.
Cause commune, 93.1 FM.
Vous êtes bien sur Cause commune, la voix des communs, la voix des possibles. Cause commune que vous pouvez retrouver sur le web cause-commune-au-singulier.fm, sur son app mobile que vous ne quittez plus, sur la bande FM bien sûr, 93.1 et le DAB+, à Paris, et bien sûr sur votre plateforme de podcast préférée. Si cette émission vous plaît, vous savez désormais ce qu'il faut faire, parce que c'est important pour nous, c'est notre seule manière d'aller plus loin, c'est notre seule manière de nous faire découvrir. N'hésitez pas à nous mettre des pouces, à nous mettre des étoiles, n'hésitez pas aussi potentiellement à commenter les endroits où vous voyez qu'on publie nos épisodes et nos émissions, voilà, parce que tout ça, bah, ça manipule les algorithmes, et...
C'est cool de manipuler un algorithme. Vous écoutez, parlez-moi d'IA.
Plus on regarde, semaine après semaine, s'égrener les annonces de sortie de nouveaux modèles IA, plus on comprend qu'il y a une potentielle différence entre les modèles IA propriétaires et les modèles IA open source. Bon, alors l'open source, dans le logiciel classique, on va dire que c'est plutôt simple. L'idée, c'est qu'il y a un ou plusieurs développeurs qui rendent leur code source initial disponible. Chacun peut venir prendre les sources, regarder comment ça fonctionne. Vous pouvez l'analyser, le modifier, l'améliorer. Et puis, si vous en faites un usage public, si vous voulez vous-même republier ce code, bah, vous devez le faire toujours en open source, avec le code source accessible. C'est une sorte de boule de neige, en fait. Tout le monde vient rajouter des améliorations au code initial. Et à la fin, bah, ça fait des communs numériques, ça fait des super logiciels comme, bah, que vous utilisez tous les jours, hein, comme VLC, par exemple, pour la vidéo, Audacity, GIMP. Bon, tout le monde est ravi de les utiliser une fois qu'ils sont développés. Alors, concernant l'open source dans l'IA, c'est le même principe. Sauf que la mise au point d'un modèle LLM, c'est beaucoup plus d'ingrédients, beaucoup plus de phases, d'étapes, pour que le suivi du caractère open source soit pris en compte. En fait, c'est complexe, tout simplement. Les qualités de transparence et d'ouverture à la collaboration de l'open source sont essentielles en matière d'IA pour tenter de comprendre finalement l'outil final qu'on a entre les mains. Il s'agit d'un double aspect, en fait, d'un double sujet technique, mais qui a des conséquences éthiques et politiques. Bon, vous avez compris, c'est un sujet complexe, mais nous avons de la chance ce matin, car notre invitée du jour est à la fois data scientiste et sociologue du numérique. Elle travaille pour une start-up française, Playas, qui s'est spécialisée dans l'IA open source. Et elle a bien voulu nous guider ce matin dans ce cheminement à la fois technique et politique, politique au sens noble du terme, c'est-à-dire des activités qui concernent la cité, qui concernent les citoyens. Bonjour Irène Gérard.
Bonjour.
Bienvenue dans le studio de Cause Commune. Merci d'avoir accepté de nous guider en fait dans ce monde de l'open source pour l'IA. Alors parlez-moi d'IA, Irène. Bon, juste avant, on a l'habitude ici un peu de commencer par une petite présentation finalement du parcours de notre invité pour mieux vous connaître. Alors d'où venez-vous? Quel est votre parcours académique et puis professionnel pour arriver jusqu'à Playas?
Donc, merci de m'accueillir sur cette radio. Donc moi, je suis très récemment diplômée de data science et de sociologie du numérique à l'université Gustave Eiffel. Mais avant ça, j'ai un parcours académique qui se situe plus dans les sciences sociales. Donc j'ai un parcours en sciences de l'information et de la communication et en sciences politiques avant ça. Donc aujourd'hui, je travaille chez Playas, mais c'est assez récent. En réalité, mon parcours s'ancre plutôt dans les humanités.
Et on va le voir, c'est assez naturel quand même, malgré tout. du coup, alors Playas, start-up française, dont on entend de plus en plus parler. Qu'est-ce que c'est Playas? Ça existe depuis quand?
Alors ça existe depuis moins d'un an.
Oui, c'est ça, c'est récent. Ouais,
à peu près. Et c'est une start-up qui s'est spécialisée dans l'entraînement des modèles de langage à partir de données ouvertes et auditables. Donc c'est une entreprise pionnière qui a fait le pari de développer des modèles d'IA qui sont entraînés exclusivement sur ces données ouvertes.
Et qu'est-ce que vous faites, vous ? Quel est votre rôle chez Playas aujourd'hui ? Quelle est votre fonction ?
Alors, ma fonction est un peu hybride. Comme je n'ai pas encore toutes les compétences pour entraîner les modèles et participer donc au surentraînement, etc., je participe à valoriser des projets de recherche, à rédiger ces projets de recherche et à contribuer du coup à l'expansion de l'entreprise et à son rayonnement.
Mais parce que l'entreprise, elle fonctionne comme ça beaucoup, par projet de recherche, vous l'avez dit.
Oui.
Et c'est ce qui va à chaque fois lui faire passer un cap, lui faire passer un nouveau développement supplémentaire. Et généralement, en plus, les résultats de ce développement-là, les partagent. Globalement, on va revenir après sur la logique globale de l'open source dans cette entreprise. Et donc, vous travaillez projet par projet. Vous avez un projet en cours particulièrement
Alors oui, c'est vrai qu'il y a une équipe recherche qui travaille exclusivement à développer des outils pour améliorer nos pipelines, etc. Mais on fonctionne beaucoup par projet. On travaille exclusivement avec des entreprises régulées ou des ONG.
Ouais.
Et on mène justement des projets qui visent à intégrer nos modèles pour résoudre des problèmes concrets. Qui intègrent donc l'IA pour des besoins spécifiques adaptés justement à ces entreprises ou à ces organisations.
Vous avez un projet en cours dont vous pouvez nous parler ?
Oui, alors moi je suis responsable du projet Caribou.
Ouais.
Donc Caribou, c'est un projet qu'on mène avec Bibliothèques sans frontières et qui a été financé par l'Agence française de développement. Le but, le principe du projet, c'est d'intégrer une IA dans des cartes micro SD qui vont être envoyées au Sénégal pour favoriser l'apprentissage du français. Donc en fait, on a développé cette application avec BSF et le but, c'est de créer donc des blocs d'activités interactifs qui permettent aux enseignants sénégalais, donc dans une région qui s'appelle Kédougou, de pouvoir s'auto-évaluer en français, de pouvoir faire des exercices de compréhension écrite et bientôt, j'espère, de compréhension orale pour pouvoir s'améliorer en français.
Et tout est mis dans la carte SD.
Exactement.
Il n'y a pas nécessité d'avoir des connexions Internet
Alors, pour un des exercices, on a créé un tuteur IA qui permet justement de corriger des fautes d'orthographe, donc des fautes de syntaxe, de grammaire, etc., à partir d'une production écrite et qui nécessite donc Internet.
Ouais.
Mais pour toute la partie de l'application et des exercices, ça fonctionne justement sans Internet.
Ça tourne en local.
Exactement.
D'accord. Ça, on va le revoir aussi. C'est sur le téléphone, carrément.
Voilà, oui.
Ah oui, d'accord. Et donc, on va le voir après, parce que c'est aussi une des capacités de l'open source. Comme vous avez le code, vous pouvez le faire tourner où vous voulez. Et notamment, effectivement, sur un téléphone, sur un PC. Alors après, il y a des questions de performance, quand même. On va en parler aussi. Vous développez, donc vous avez dit, il y a une partie recherche qui cherche à améliorer des LLM, donc des modèles de langage qu'on connaît bien maintenant, de type GPT. Et puis des projets. Du coup, si on se penchait un petit peu, si vous le voulez bien, sur la manière dont s'est construit un LLM, on va pas le cacher aux auditeurs, on a un peu préparé cette émission. Donc on s'est dit un petit peu par quelle étape pédagogique on allait essayer de passer. Finalement, donc la construction d'un LLM, si on schématisait, parce qu'en fait c'est pas une science exacte, c'est pas une recette qu'on peut suivre de A à Z. Il y a plein de chemins de traverse sur ces sujets-là. Il y a plein de manières de raccourcis de pouvoir travailler sur les LLM. Mais si on devait faire les grandes étapes.
Donc on peut considérer qu'il y a quatre grandes étapes si on schématise. D'abord, la collecte des données, donc ce qui nous intéresse en particulier chez Playas.
Ouais.
Ensuite, une phase de développement du modèle, donc d'entraînement du modèle. Et une phase d'évaluation, enfin, qui est très importante justement pour calibrer l'alignement du modèle. Et finalement, il y a une phase de déploiement.
Donc oui, là, sur les serveurs, exactement. Et pour que ça puisse tourner avec des architectures particulières. Alors, si on commence par les données, vous l'avez dit, Playas, c'est un peu votre spécialité, les données. C'est-à-dire que vous avez créé quelque chose de très particulier sur les données. Vous pouvez nous en dire quelques mots ?
Oui, alors justement, on est la seule entreprise au monde qui entraîne ses modèles exclusivement sur des données ouvertes.
Oui.
Donc ça a vraiment été en fait le cœur du travail au tout début de la création de l'entreprise, c'est-à-dire d'amasser, de collecter, d'assembler et de traiter ces données.
L'objectif, c'est quand même, c'est du quoi, c'est répondre à la question de sur quoi le modèle a été entraîné, de le savoir d'entrée de jeu.
Exactement.
Et de faire des choses peut-être un peu.
En fait, c'est une façon de se positionner dans le champ de l'intelligence artificielle face aux entreprises qui publient des modèles régulièrement,
oui.
En disant en fait, il est absolument possible de créer des modèles qui sont entraînés sur des données permissives et qui ne sont pas soumises aux droits d'auteur.
Ouais.
Et à d'autres types de protections, justement. Et en fait, aujourd'hui, on sait qu'il y a énormément de malhonnêteté intellectuelle ou de mensonges de la part des entreprises qui ne font pas du tout de transparence sur, justement, ces données d'entraînement, alors même qu'ils sont soumis à des lois qui imposent de faire cette transparence-là.
Oui, et qui, du coup, juridiquement, pourrait même être, si c'est prouvé, compliqué pour eux, puisque derrière, ça voudrait dire que voilà, ce qu'on a produit finalement s'appuie sur des choses qui sont copyrightées et du coup qui n'appartiennent pas à ceux qui les ont produits, quoi.
C'est exactement ça. En fait, aujourd'hui, il y a donc les actes européens, donc la législation qu'on doit respecter, qui impose justement cette transparence-là. Mais il y a une zone grise justement autour de l'application. Il y a deux questions. Comment est-ce qu'on peut être sûr que cette loi est respectée? Comment est-ce qu'on peut avoir les preuves que les entreprises respectent bien la loi? Donc ça, c'est la question du contrôle. Et ensuite, comment est-ce que on pense du coup la sanction? Comment est-ce que ça s'organise? Parce que précisément, c'est très difficile.
Faut prouver quoi.
Voilà, exactement. C'est très difficile de faire la transparence.
Et Pléias vous évacue cette question-là en disant maintenant nous, notre corpus d'entraînement, il est ouvert, il est connu, il est publié d'ailleurs. On peut le retrouver ce corpus. Il est utilisable par qui veut. Il s'appelle comment?
Il s'appelle Common Corpus.
Et qu'est-ce qu'il contient du coup, Common Corpus?
Alors, en termes de mots, il en contient 500 milliards.
Ah oui.
Donc c'est vraiment pharaonique. Et il a plusieurs langues, les principales langues européennes, donc surtout l'anglais, le français, l'italien, l'allemand, le néerlandais.
Pour qu'on ait un peu une idée quand même, faut comprendre que Wikipédia, dans toute la langue anglaise, c'est 5 milliards de mots. Et là, Common Corpus, à lui tout seul, il est à 500 milliards de mots.
Oui.
Donc il est 100 fois plus, si je calcule bien, 100 fois plus gros qu'un corpus Wikipédia, quoi.
Oui.
Et du coup, donc, vous disiez, il contient différents types de sources. Alors, c'est des sources très diversifiées, de thématiques très diverses.
Très diversifiées. Et en même temps, on était très contraints, justement, par l'obligation...
La disponibilité
des données. Et en fait, ça représente quand même pas mal de choses, ce qu'on appelle l'open source, ou en tout cas l'open data. Il y a différents fragments de données, des gisements de données sous-exploités, qui dorment et il suffit d'aller les chercher, entre guillemets.
Par exemple?
Par exemple, nous, on a amassé donc des données d'entraînement du domaine légal et administratif, donc dans les différentes langues que j'ai citées. Donc ça va concerner par exemple les documents légaux des différentes institutions nationales, régionales, ou alors même des institutions internationales, comme par exemple les organisations mondiales.
Ouais.
Ensuite, ça va être la culture, l'open culture, on appelle ça l'open culture.
Ouais.
Donc ça va être par exemple toutes les données qui sont collectées par dans le but de la préservation du patrimoine. Donc on va retrouver par exemple les livres qui sont tombés dans le domaine public ou encore des corpus de journaux libres de droit. Donc ça va être souvent des choses très anciennes.
Ouais. Ça en fait d'ailleurs. Je crois que c'est la majorité du corpus, là, l'open culture.
Exactement, ouais, c'est la grande majorité. Et ensuite, on va avoir des corpus académiques. Donc là, ça va être quand même pas grand-chose relativement à tout ça.
Relativement au contenu libre sur ce sujet-là.
Oui, exactement. Donc là, on va avoir tout ce qui est base de données bibliométriques disponibles.
Ouais.
Donc nous, on va tabler surtout sur OpenAlex, qui est la plus grande au monde.
Ouais.
Et par exemple, les thèses françaises pour le français. Et puis ensuite, le web texte, ce qu'on appelle le web texte. Donc c'est les communs numériques qui sont issus du web. Donc là, ça va être par exemple des données du Common Crawl ou alors ce qu'on appelle les YouTube Commons, donc la transcription de vidéos YouTube libres de droit.
Ouais.
Et enfin, le dernier pilier, c'est donc tout l'open source. Ce qu'on appelle l'open source, c'est donc là, dans ce cas-là, surtout l'open code.
Ouais.
Et ça va être des données issues de discussions de la communauté scientifique qui fait de la programmation sur Internet, donc surtout GitHub.
Ce qu'on disait, quoi, les codes sources des fameux logiciels libres, en fait.
Exactement.
Ouais. Et donc, du coup, avec tout ça, vous avez un corpus qui est clean, on va dire ça comme ça, qui est suffisant pour entraîner correctement un LLM. Et c'est la base de tous vos travaux derrière de production de LLM. Malgré tout, vous mettez en avant aussi des actions de mise en qualité des données. C'est-à-dire que ce corpus-là, malheureusement, il n'est pas complètement clean de base. Il faut quand même vérifier certaines choses. Qu'est-ce que vous mettez en qualité dans ces données-là?
Alors, justement, oui, le problème de la qualité des données, donc ça, c'est vraiment particulièrement vrai pour le corpus d'Open Culture, parce que ce sont des documents parfois anciens, des PDF, c'est vraiment...
Diversifié.
Ouais, exactement. Très diversifié, pas beaucoup de standardisation et surtout d'austérisation, pardon, qui peut être parfois un peu...
Donc la numérisation des documents, quoi. Oui. Si c'est des vieux bouquins qui ont été scannés,
voilà.
Et le scan n'est pas forcément toujours de très bonne qualité.
C'est ça.
Et donc vous avez des outils, vous, pour remettre en qualité ces contenus.
Oui, c'est ça. On a développé un outil donc, qui s'appelle YOLO V8 et qui est une solution justement qui permet l'analyse de ces PDF.
Bon, je le redis pas, mais cette solution-là est disponible en open source et réutilisable pour les autres. Donc c'est encore une fois quelque chose que vous mettez à la disposition des autres. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme mise en qualité de données?
Ensuite, il y a tout ce qui est le nettoyage de toxicité.
Ouais, c'est quoi ça, la toxicité?
Alors justement, la toxicité, c'est une valeur un peu flottante parce qu'elle est évidemment très ancrée dans le temps et dans l'espace.
Ouais.
Mais on peut dire qu'il y a des contenus qui sont indésirables de façon un petit peu universelle.
Ouais.
Et en fait, la curation de la toxicité, ça passe justement par des outils de filtrage qui vont enlever tout ce qui est, par exemple, de la violence raciste, sexiste, de la violence au niveau des personnes handicapées.
Ouais.
Ou alors juste la violence verbale.
Pareil, un outil qui est disponible pour tout le monde. Si vous voulez détecter et mettre en bonne disposition un texte au niveau de sa toxicité, on peut retrouver un logiciel qui le fait.
Oui.
Vous le faites aussi avec la vie privée, vous anonymisez potentiellement les données. Et puis, il y a aussi un autre élément qui va améliorer, alors ce dont on va parler juste après, qui va améliorer la capacité de votre LLM à faire un RAG, donc un outil qui va permettre d'interroger des documents. Qu'est-ce que c'est cet outil qui met en qualité
Alors en fait, ça c'est une technique d'entraînement de nos modèles, donc Pleiades Pico.
Ouais.
Donc c'est un modèle de 350 millions de paramètres. Il a été entraîné spécifiquement pour répondre à des tâches de RAG, Rival Augmented Generation, pardon pour l'accent.
Ouais.
Mais donc ça va être la génération augmentée par récupération. Donc en fait, c'est des tâches qui consistent à utiliser un modèle pour interroger une base de données et pour générer des réponses qui s'appuient sur des citations précises qui seront ensuite récupérées par le modèle et présentées avec la réponse du modèle.
On donne au modèle un corpus de documents et le modèle est entraîné pour savoir aller chercher dans ces documents-là les réponses à ce que vous... Et donc derrière, vous avez une belle composition de données qui va servir à l'entraînement. Donc en fait, ça c'est tout le travail sur les données, mais il y a encore un dernier travail de préparation des données avant l'entraînement du modèle.
Oui, alors justement c'est la phase de conversion du texte en sous-unité texte, donc ce qu'on appelle des tokens.
Ouais.
Donc ça va être justement un encoding qui va permettre de segmenter les mots pour pouvoir avoir justement un corpus de tokens. Et ensuite, ces tokens-là, ils sont convertibles en embeddings. Donc, c'est une représentation vectorielle qui sera ensuite traitée par le modèle.
Oui, en fait, c'est toutes les phases où finalement, on va simplifier l'entraînement du modèle et la manière dont le modèle va utiliser ces mots en préparant finalement le texte dans un bon format. Et d'ailleurs, encore une fois, je crois que vous avez des outils qui permettent d'optimiser, que vous publiez en open source, qui permettent d'optimiser cette préparation des données et ce découpage, cette fragmentation des données.
Voilà, on a publié ce qu'on appelle un tokenizer. C'est justement l'outil qui permet de faire cette fragmentation et qui est multilingue, parce que c'est aussi un enjeu du coup.
Bien sûr. Donc là, on est d'accord qu'on a, ça y est, on a passé la phase des données de leur préparation et on va du coup entraîner le modèle sur ce corpus de données qui est prêt, qui est clean, qui est prêt. Ça passe par quelle étape du coup cet entraînement?
Donc là, c'est une étape de pré-entraînement, justement.
Ouais.
Donc ça va être, ça va reposer sur des architectures neuronales différentes.
Ouais.
Celle qui est la plus utilisée, enfin celle qu'on utilise dans le cadre de notre travail, c'est les transformers.
Ouais.
Et donc là, l'objectif, ça va être d'appliquer donc à des modèles, un modèle autorégressif, donc ce qu'on appelle les GPT, pour prédire chaque token à partir du token précédent. Donc c'est comme ça que vont fonctionner les LLM.
Donc là, on passe la phase de pré-entraînement.
Voilà.
C'est quoi la phase suivante, du coup?
Et bah, du coup, ce qu'on appelle le fine-tuning, ouais. Une fois que le modèle est pré-entraîné, il faut l'affiner sur des tâches spécifiques. Donc là, c'était un peu la spécialité de Plias, avant qu'il ne développe donc, ses propres modèles. Et donc, ça va être justement d'habituer le modèle à gérer des nouveaux contextes et de faire en sorte qu'il se spécialise sur des tâches précises et qu'il soit surperformant sur ces tâches-ci.
Ça, on voit bien qu'il y a aussi une dichotomie qui est en train de se créer en ce moment entre la continuité des entraînements sur des énormes corpus pour faire des LLM généralistes et qui doivent tout faire et qui vont vers l'IA générale, voilà, le grand graal de l'IA générale, et au contraire et qui du coup aussi demandent beaucoup de ressources, notamment énergétiques, notamment de ressources minières et voilà, de data centers et de voilà, et des logiques où on dit attends, là on connaît la tâche qu'on veut lui donner à ce LLM et on va le spécialiser, on va le fine-tuner sur ce sujet précis, sur des corpus de données complémentaires précis aussi potentiellement.
C'est vrai, ce sont des enjeux de frugalité en fait.
Ouais.
Et puis c'est des enjeux aussi de souveraineté.
Oui.
Parce que quand on nous demande un modèle géant de résoudre certaines tâches, bah c'est vrai qu'ils sont extrêmement performants en fait sur vraiment une énorme boîte à outils. Ça peut vraiment résoudre des problèmes assez divers, que ce soit au niveau du code ou alors dans la rédaction de n'importe quelle production. C'est aussi un autre modèle en fait que de dire finalement c'est mieux d'utiliser des tout petits modèles spécialisés qui peuvent tourner en local, qui peuvent résoudre des tâches qui correspondent à mes besoins spécifiques.
Et c'est votre spécialité chez Payas dans ce cas-là. Et après, il y a la dernière phase, enfin, dans la partie entraînement qui concerne... Alors, c'est un peu à cheval aussi parfois, mais tout ce qui est l'alignement, l'évaluation, l'amélioration, c'est un peu à cheval entre l'entraînement et l'évaluation et l'amélioration.
Oui.
Ça, c'est des phases qui servent à quoi ?
Alors justement, ça sert à ce que le modèle soit aligné sur les valeurs humaines. C'est encore assez large.
Ouais.
Mais ça va être, par exemple, de contrôler les sorties du modèle. En faisant passer à travers tout un tas de tests ou des benchmarks, ce qu'on appelle des benchmarks, et qui permettent justement d'évaluer si le modèle peut porter atteinte ou heurter la sensibilité ou simplement se mettre à avoir des comportements absolument indésirables.
On lui pose des questions, on vérifie ce qu'il raconte, s'il est pas en train de potentiellement partir en cacahuète.
Oui, ça peut être ça. Mais il existe vraiment énormément de types d'évaluations différentes. Ouais. Mais en général.
Et c'est là que finalement, c'est le cœur de l'innovation de chacun des personnes qui font du LLM est là aussi.
Oui.
C'est-à-dire que chacun a sa petite recette, chacun a sa petite façon de voir les choses pour améliorer, pour faire des choses plus précises. Et c'est là où il y a un vrai savoir-faire aussi, bah, du coup, de Plias sur ce sujet.
Oui, mais en fait, c'est vrai que la question de l'évaluation est très difficile à résoudre parce que, enfin, comme vous l'avez mentionné, il y a plusieurs types d'évaluation. Et en fait, tous les modèles qui sont publiés ne passent pas forcément à travers les mêmes cadres d'évaluation, n'ont pas les mêmes scans qui permettent justement d'avoir une évaluation standard.
Ouais.
Donc en fait, on a aussi ce problème-là de modèles qui sont publiés, qui répondent, qui ont des notes excellentes dans plein de benchmarks, mais dont on peut pas vraiment évaluer les compétences réelles parce que justement l'évaluation est soit trop large, soit trop appliquée à certaines tâches.
Trop conceptuelle.
Voilà.
Ouais.
Et en fait, ça pose des vrais problèmes derrière.
Bon, écoutez, on va pas parler de du déploiement et de la maintenance. Peut-être juste se dire quand même que dans cette quatrième phase qu'on va pas forcément aborder dans le détail, il faut prendre en compte le fait que potentiellement un corpus de données peut se mettre à jour. Et donc du coup, faut dans l'architecture, il faut savoir mettre à jour un corpus de données. Et puis peut-être aussi avoir en tête quand même que dans son fonctionnement général, le LLM doit pas trop essayer d'optimiser la consommation de ressources.
Quand c'est possible.
Donc là, on a fait la complétude d'un entraînement, d'un process de LLM. J'espère que c'est pour vous aussi clair que ce l'est maintenant pour moi, parce que ça a été une vraie mission que d'arriver à me faire comprendre tous ces éléments-là. Merci, Irène. Du coup, on peut aussi du coup parler d'un produit très particulier de Plias, qui est en fait un peu le produit packagé, un des produits packagés de Plias, qui s'appelle Scholastic AI.
Qu'est-ce que c'est ? Alors, Scholastic AI, c'est une application qui permet de naviguer intelligemment dans des sources académiques. C'est en fait un assistant qui est propulsé par un RAG et qui est déployable localement, donc sur PC ou sur Mac.
Donc vous avez bien entendu, hein. C'est-à-dire que Pléias met à votre disposition un logiciel que vous pouvez déployer sur un ordinateur. Il faut que l'ordinateur il soit pas trop vieux non plus, hein, un petit peu de puissance quand même. Mais c'est pas non plus forcément un foudre de guerre l'ordinateur, parce que les modèles, le modèle en question, c'est plutôt un Pico, c'est plutôt un petit modèle, donc ça peut tourner. Et vous installez ça sur votre machine, et du coup, comment vous l'utilisez après derrière? Vous lui donnez des documents à analyser? Comment ça se passe?
Bah justement, c'est un assistant qui a un mode en ligne et un mode hors ligne.
Ouais.
Donc le mode en ligne, c'est donc l'assistant qu'on peut utiliser pour interroger une base de données académique, ouais, bibliométrique, qui est donc OpenAlex.
La fameuse.
Ouais. En fait, l'application intègre une API justement vers cette base de données et on peut donc interagir avec elle. Donc ça va être de poser une question et d'obtenir une réponse qui sera une réponse transversale parce que du coup, elle aurait été alimentée avec cette
base
de données. Voilà.
Ouais.
Et une réponse qui sera augmentée et qui intégrera les citations directes de documents qui sont présents dans cette base de données.
Comme on connaît les sources, on peut les citer et on peut les donner en réponse, effectivement.
Donc, c'est ça. Ce sera non seulement donc le document sera cité donc en tant que donc l'article sera cité, mais on pourra aussi voir le chunk exact, donc le paragraphe exact auquel se réfère le modèle pour proposer la réponse.
Et en mode hors ligne, ça donne quoi du coup?
Et en mode hors ligne, en fait, c'est donc la même idée, c'est le même traitement.
Mm-hmm.
Et en fait, ce sera possible pour les utilisateurs de traiter de cette manière-là les documents qui sont hébergés
en local
sur
vos propres documents. En fait, vous utilisez l'interface et la puissance du LLM pour interroger vos propres documents.
C'est ça. En fait, ça répond à la même problématique de la découverte du savoir. Dans le monde actuel où en fait la science est de plus en plus cloisonnée, en fait c'est de plus en plus difficile de naviguer dans des corpus justement parce qu'ils sont gigantesques. Les corpus comme OpenAlex se mettent à jour tous les jours. Il y a vraiment des dizaines et des dizaines de nouveaux articles en permanence. Et en fait, sur des questions justement très actuelles, par exemple typiquement l'intelligence artificielle générative, il y a vraiment une difficulté à naviguer. On navigue un peu à vue. Et donc, c'est aussi une manière de décloisonner la science et de dire que, en fait, c'est possible d'avoir un assistant vraiment mis à jour en temps réel.
On vous met toutes ces références hein, en description de cette émission. Je comprends pas comment cette information n'est pas plus diffusée de pouvoir fournir à n'importe qui et à tout le monde en fait, surtout un outil qui vous permet d'utiliser l'IA de manière locale et plutôt frugale pour justement donner plus de richesse à vos propres documents. Moi, je cours direct pour aller voir comment ça fonctionne. C'est l'heure de conclure. Irène, est-ce que vous avez un dernier point à nous partager sur justement ce domaine de l'open source et de l'IA open source? Est-ce qu'il y avait une dernière question, une dernière réponse, un dernier élément que vous vouliez nous partager?
Un dernier élément qui me semble intéressant, on en a un petit peu parlé, mais c'était pour insister, c'est surtout la question de la souveraineté.
Ouais.
Donc en fait, ça marche pour Scholastica, mais en fait, ce qui est important avec le déploiement des modèles en local et de pas recourir à ces modèles gigantesques qui peuvent résoudre tous vos problèmes, c'est surtout de savoir que les données que vous allez utiliser et que vous allez traiter, ce sont les vôtres. Et en fait, c'est vraiment important de savoir que quand on accepte de donner téléverser plusieurs documents dans ChatGPT pour en faire une synthèse ou faire n'importe quelle analyse,
on ne sait pas où ça part.
On ne sait pas où ça part. On n'a pas la preuve que les données ne seront pas utilisées ultérieurement, etc.
Ouais,
donc en fait, c'est vraiment important de se poser cette question de souveraineté des données.
Souveraineté, frugalité, transparence, ça fait beaucoup de mots-clés quand même pour ne pas utiliser ce genre de solution. Merci beaucoup Irène, merci pour votre partage, pour votre décryptage, pour votre pédagogie. On retrouve Pléias sur pléias.fr et sur Inface. Vous, on vous retrouve sur LinkedIn éventuellement, si on veut. Merci beaucoup Irène.
Merci à vous.
Et merci à vous chères auditrices et chers auditeurs. N'oubliez pas de liker cet épisode parce que ça manipule l'algorithme et c'est cool de manipuler l'algorithme, surtout si c'est pour nous faire connaître. Restez sur 93.1 FM sur Cause Commune. Pourquoi vous n'iriez pas faire un tour par exemple chez nos copains de Chemin de Traverse? C'est l'émission d'à côté et ça dure une heure. C'est généralement aussi un grand moment de découverte et c'est très diversifié. Voilà, écoutez, à bientôt sur Cause Commune.